Le verset qui s'est imposé à mon esprit, c'est quand Jésus a ressuscité Lazare. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est un miracle extraordinaire. Il était en état de putréfaction depuis plusieurs jours. Et Jésus a dit deux mots. Lazare, sort. Au préalable, Jésus avait demandé une chose. Ôtez la pierre. Pour qu'il y ait un miracle dans la Bible, à part certains prodiges, mais quand il y a des miracles, il y a toujours la participation de l'homme. Est-ce que Jésus aurait pu ôter la pierre du tombeau ? Il a demandé, parce que la foi doit intervenir. Donc Jésus dit, ôtez la pierre, il se présente devant le tombeau, et dit, Lazare, sors. Et le mort sortit, ressuscité, lié de bandelettes. Et Jésus a dit à Marthe et à Lazare, déliez-le. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que même si des personnes sont vivantes, ressuscitées, qui sont venues à la vie avec Christ, certaines sont encore liées, enfermées dans des problèmes, enfermées dans des difficultés. Vous voyez, on a fait une étude sur l'occultisme. Moi, j'ai appris, mais ça m'a peiné vraiment. Qu'il y avait des chrétiens, qui avaient lu le livre d'Harry Potter, qui avaient regardé le film Harry Potter. Vous savez ce que c'est Harry Potter ? C'est l'école de la sorcellerie. Alors, peut-être que certains chrétiens sont tellement loin de Dieu qu'ils n'ont aucune sensibilité au Saint-Esprit. Moi, je le pense. Parce qu'on a quand même vu hier qu'il ne faut même pas l'écouter, ces choses. Pas y participer. Mais Dieu dira au commencement que vous n'écoutiez même pas ces choses. On l'a lu, vous le savez que c'est vrai. Deutéronome 18:14. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un conseil terrible, merveilleux qui est donné. Dans le livre de l'Ecclésiaste, alors, Ecclésiaste c'est juste après les Proverbes. C'est un petit livre, il y a des gens qui ont du mal à trouver les petits livres. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Ces versets que je vous lis, je vais les enchaîner pour que vous compreniez bien la conclusion de ma prédication. Donc dans l'Ecclésiaste, il est déjà demandé certaines choses par rapport à la façon dont on sert Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Il n'est pas dit à ton cœur. Donc voyez, même notre marche, ça nous parle de notre marche. Bon, je ne vais pas tout expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Prends garde à ton pied. Comment on marche avec Dieu ? Lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur, là on est dans le cœur, ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier longtemps, mais ça veut dire que ça ne sert à rien de parler, qu'on peut faire les choses par routine, par habitude, ça ne sert à rien. On peut jeûner pour jeûner, je pense que ça va me décourager des gens. Je ne comprends pas, j'ai jeûné. Moi j'ai entendu des gens, tu as un problème avec le tabac. Pas Jonathan, mais tu as un problème avec le tabac. Jeûne 3 jours et Dieu te guérira. Moi j'avais un problème avec le tabac. J'ai jeûné 3 jours et Dieu m'a guéri. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est ridicule. Bien sûr que la personne a eu à cœur de jeûner, elle a fait ça. Mais ça voudrait dire que si, alors Dieu est obligé de nous délivrer de cette façon. Vous voyez, on tombe dans les œuvres. Vous allez me dire, mais vous avez compris. Et il faut faire attention, le sacrifice des insensés, moi j'ai demandé à Dieu qu'il m'éclaire. Le sacrifice des insensés, c'est que je sers Dieu, je fais certaines choses, mais je n'obéis pas. Le premier mois, c'est pas parce que je prêche que j'obéis. Qui vous dit que j'obéis à Dieu ? Voilà, si vous appreniez que je prêche, que je sers Dieu et que je n'obéis pas, vous pourrez dire cet homme c'est un insensé. Il offre le sacrifice des insensés. Et ce n'est pas parce qu'on va jeûner, parce qu'on va prier, parce qu'on va évangéliser, que Dieu va bénir. Un petit peu plus loin, regardez dans Ésaïe, ce que Dieu est obligé de leur dire. Et il y a des textes comme ça, ils sont nombreux dans la parole de Dieu. Ils sont très nombreux. Ésaïe chapitre 1er, regardez verset 15. Ce sont des versets que Dieu a voulu dans sa parole pour qu'on comprenne bien qu'il y a le sacrifice des insensés. Regardez bien, c'est terrible ces versets. Et ça devrait nous faire réfléchir. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible comme il faut. Ésaïe 1, verset 15. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Est-ce que c'est bien d'étendre ses mains vers le Seigneur? C'est une coutume en Israël, oui. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas le fait d'étendre les mains. Regardez la suite. Vos mains sont pleines de sang. Ah bon? Alors c'est quoi les mêmes? C'est quoi être un criminel? Dans le Nouveau Testament, c'est quoi un criminel? C'est un meurtrier, quelqu'un qui assassine quelqu'un? Est-ce qu'il est dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier? C'est ça, réfléchir. C'est écrit ou c'est pas écrit? Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il faut pas écouter ce que la loi, il faut l'écouter, mais attention, la loi du Seigneur, elle est plus profonde. Quand vous multipliez les prières, ça fait mal ça. Quand vous multipliez les prières, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Vous voyez? Donc c'est pas la peine de jeûner, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de se dandiner ou de lever les mains. La question que je dois me poser, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Alors il y a un autre verset qui pourrait servir de conclusion, mais c'est bien de le lire au début, dans 1 Samuel. Vous rappelez quand Saül, alors c'est 1 Samuel 15, ce sont des versets que vous pouvez apprendre par cœur, le Saint-Esprit vous les rappellera. Et laissez-moi vous dire que dans des moments où il y a des choix à faire, le Saint-Esprit vous le rappellera, si bien sûr vous ne l'éteignez pas. 1 Samuel chapitre 15, Saül n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Dieu lui avait dit de faire telle chose, il ne l'a pas faite. Pourtant, il avait reçu l'onction. Ce n'est pas parce qu'on a l'onction qu'on est continuellement obligé d'obéir. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, le verdict est terrible. Terrible. Regardez bien ce verset. Samuel dit, donc à ce roi qui commençait à mal réagir, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Question. « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, c'est-à-dire que l'adoration. Car la désobéissance, regardez bien, hier on a parlé d'occultisme, mais regardez où ça va. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans une version, j'ai lu la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette. Il a très mal réagi. S'il avait bien réagi, il se serait repenti, Dieu l'aurait restauré. Donc vous voyez dans ces deux versets, archi sérieux, que le problème, ce n'est pas d'offrir des holocaustes, de faire des choses, et moi je prie, et moi je jeûne, et si, et là, et moi je prêche, et moi je joue du piano, ou tout ce que vous voudrez. Non. L'obéissance. La question qu'il faudra qu'on se pose en sortant de ce culte, c'est « Seigneur, est-ce que je suis un enfant obéissant ?» Après, il est certain que quelqu'un qui obéit va incontournablement conjuguer cette obéissance à ses commandements bénis. Est-ce que quelqu'un qui obéit prie? Eh bien oui. Est-ce que quelqu'un qui obéit peut être poussé par le Saint-Esprit à jeûner? Parce qu'il y a des choses qui nécessitent le jeûne et la prière. Alors je voudrais partager deux ou trois textes qui vont vous paraître peut-être pas utiles par rapport au sujet, mais à la fin vous comprendrez bien. Le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. J'ai jamais prêché sur l'introduction de ce texte. Et c'est vendredi, dans ma voiture, avant j'écoutais France Info, maintenant je prie, et je médite, et c'est vrai. Je méditais, et j'ai pensé à ce texte, dans Matthieu chapitre 21, puis il est dans tous les quatre évangiles, mais j'ai compris pourquoi. Je pensais que c'était pour moi, pour mon plaisir personnel, c'était pour nous. Matthieu 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. On va y revenir, vous inquiétez pas. Un autre texte, dans le prophète Néhémie, Gardez les pages, parce que je peux vous dire que c'est des paroles que Dieu veut adresser à quelqu'un. Dans le prophète Néhémie, notre situation, là nous voyons, nous avons deux disciples qui étaient à côté de Jésus, dans le texte qu'on vient de lire. Là nous allons voir un autre disciple qui est très loin de Jérusalem, je pense à 1400 kilomètres, puisqu'il était à Suse, Suse c'est en Iran, en Iran actuel, je pense que sans me tromper ça fait 1400 kilomètres de Jérusalem, mais, comprendrez. Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er, verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Vous y êtes? C'est plus difficile à trouver, Néhémie? Au mois d'avril, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, Anani, je crois que ça veut dire douleur, souffrance, affliction. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné, c'est son frère donc. Dieu utilise son propre frère et des amis. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le temple avait été reconstruit du temps d'Esdras, juste avant, 10 ans avant, je crois, à peu près. Mais il y avait un problème, c'est que les murailles étaient en ruine. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il y a toute sa prière qui est expliquée. Et au chapitre 2, il y a l'exaucement. Donc on voit deux disciples qui sont à côté de Jésus, que le Seigneur va utiliser, et un autre qui est très loin, en captivité. Alors on pourrait se dire, tiens, pourquoi Dieu utilise là deux jeunes, deux hommes ou deux femmes à côté, et puis quelqu'un de loin? Vraiment, c'est cette pensée qui s'est imposée dans mon esprit. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, ça ne veut rien dire. Mais quand il n'y a pas de séparation entre l'Église et le monde, c'est que les murailles sont tombées. Quand les chrétiens regardent Harry Potter, moi je peux vous dire que dans la vie de ces chrétiens, les murailles sont brûlées par le feu. Vous entendez? Vous pouvez le regarder. Nous, on n'est pas des objecteurs de conscience, on n'est pas des gourous, on est des pasteurs. Mais moi, je vous dis que si vous tolérez, vous participez à ces choses, c'est grave. Moi, je vous assure, quand j'entends, qu'on me dit, j'ai regardé. Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas regardé, monsieur Gou, Harry Potter? Je dis, mais vous rigolez? C'est de la sorcellerie. Je ne sais pas si certains sont choqués. J'espère que si vous le regardez, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous mettre à genoux et demander à Dieu pardon. Et Dieu vous pardonnera. Mais mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Ces choses-là, elles sont écrites. Dieu, dès le départ, les dénonce, nous demande de ne même pas les écouter. Parce que si on y participe, si on les écoute et que ça nous embraye dans cette spirale, on finira exactement là où Satan finira. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et je crois, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné son esprit, sa parole, et il nous donne du discernement, et il veut nous utiliser, parce que la vie de l'esprit, la bénédiction de l'Éternel, bien sûr que il la donne. Il peut même faire pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, on voit bien que Dieu, dans sa bonté, nous fait grâce et miséricorde, même si on ne le mérite pas, c'est la définition de ces deux mots. Mais il n'empêche qu'il y a une grande bénédiction que Dieu veut déverser sur l'Église, par l'Église. Et la question que nous devons nous poser, mais à quelle distance je suis de lui? Regardez bien, vous savez, moi, ce texte, comme dans la voiture, je méditais. Jésus a dit à deux disciples, allez à Bethphagée, vous allez rentrer dans le village, vous allez voir un ânon attaché, détachez-le. Et si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites, le Seigneur en a besoin. Ils vous laisseront aller. C'est simple, non? Qui peut détacher un anon? Est-ce qu'un enfant peut détacher un anon? Oui, mais l'enfant peut détacher un anon. Il n'y a rien de plus simple. Allez dans un club équestre et vous verrez un enfant qui détache son petit poney pour aller se promener. Écoutez bien, c'est sérieux. Vous savez, tout ce qui est écrit, c'est sérieux. On lit tout ça, on lit, mais on ne fait pas gaffe. Moi, le premier. Ces deux disciples, ils étaient à côté de Jésus. Et Dieu les a utilisés. Vous comprenez la leçon? Jésus n'a pas utilisé quelqu'un qui était à 500 mètres ou un kilomètre. Il a demandé à deux disciples qui étaient à côté de lui, qui avaient certainement besoin d'être à côté de lui. C'est simple. Détacher un anon. Dire à quelqu'un qui vous pose une question, le Seigneur en a besoin. Ils l'ont fait. Et la question que je me pose dans cette dimension de communion avec Dieu, qu'est-ce que l'on fait des choses toutes simples que le Seigneur nous demande? Parce que Dieu demande des choses toutes simples. Peut-être que ce soir, bien sûr, si nous sommes à 50 km de sa présence, si nous sommes en train de regarder Harry Potter, vous comprenez bien qu'on va avoir du mal à entendre la voix du Seigneur. Mais peut-être que le Seigneur va vous dire, appelle tel frère. Est-ce que Dieu peut vous demander d'appeler un frère? Ou est-ce que c'est moi qui dois appeler tous les malades de l'Église? Va détacher un anon. Il y a des gens aujourd'hui qui diraient, mais n'importe quoi. Moi, je dis, non, moi je veux prêcher l'Évangile. Moi, non, moi détacher un anon, c'est ridicule. Moi, je n'aime pas les animaux en plus. Mes frères et sœurs, Néhémie, Dieu a dû le chercher très loin, mais ce n'était pas sa faute, lui. Lui, il a été amené en captivité, il était très loin de Jérusalem. Mais vous avez vu, à 1400 kilomètres, Dieu a vu le cœur de cet homme. Il était très loin de Jérusalem, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu, quelqu'un qui avait un cœur pour l'Église, pour Jérusalem. Et quand il a entendu que les murailles étaient consumées par le feu, il n'a pas pu faire autrement que de s'asseoir et de pleurer. Il n'a pas dit, écoutez les frères, moi je suis ici à 1400 bornes, écoutez, non, écoutez, moi je suis échanson, Dieu m'a béni, voilà, je ne suis pas trop mal ici, je suis échanson du roi, je goûte le vin, je veille sur la cave. Non, débrouillez-vous. Il aimait Jérusalem. Je nous pose la question, est-ce que nous aimons l'Église? L'Église du Seigneur. Ou est-ce que nous la jugeons? Ou est-ce que nous râlons? Moi, je veux une Église plus gentille. Moi, je change d'Église. Moi, je veux une Église plus sympathique. Une Église plus accueillante. Je continue? Non. Vous savez ce qu'on a besoin? Tous, d'être en communion avec notre Sauveur. Tant mieux si l'Église est gentille. Tant mieux si l'Église est sympathique, etc. Mais mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'une Église plus gentille. On a besoin dans l'Église d'être des hommes et des femmes qui, quand ils entendent la voix de Dieu, ils disent « Oui, serait-ce que détacher un anon, eh bien Seigneur, je le ferai. » Faire des choses toutes simples. Mais comme on n'est pas fidèle dans les petites choses, et comme on s'évertue peut-être à avoir un titre, il y a des gens, ils cherchent des titres. Moi, je veux un titre. Moi, j'aimerais être ancien dans l'Église, d'ici ou d'ailleurs. Moi, je voudrais être honoré. Vous avez vu comment ça s'est passé pour Saül? Il a voulu être honoré. Quand il a péché, il a dit à Samuel, « Honore-moi devant les anciens d'Israël. » Lui, il voulait pas perdre son titre de roi. « Honore-moi devant les anciens d'Israël. Assure-toi que moi, je veux garder ma royauté. » Il aurait pas dû. C'était pas de la royauté qu'il avait besoin. Il avait besoin de Dieu. Regardez, quand David a péché, il n'a pas dit « je veux garder ma royauté ». Il m'a dit « Non, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Parce qu'il savait ce qui se passe quand Dieu retire son esprit de quelqu'un. Il le savait, il l'avait vu. Donc la première chose qu'il a demandé, mais il était intelligent, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le grand roi, il n'a pas dit la royauté, je suis sûr, j'en ai pas parlé avec lui. Mais je peux vous dire que David, il se fichait pas mal de la royauté. David, il voulait marcher avec Dieu. Et franchement, depuis l'AVC, c'est vrai que je n'ai jamais reproposé un jeûne et prière parce que je ne me sentais pas trop capable de le faire, parce que quand même, ça ne se voit pas, mais derrière, ça va mal. Mais je pense qu'il faut le faire. J'essaierai de venir tout ce que je pourrai. Mais je crois, mes frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Et il cherche des petits disciples qui sont là juste à côté de lui, qui pourront entendre sa voix, va me détacher un anneau. Ou quelqu'un peut-être qui est loin, géographiquement, c'est pas grave la géographie. Et il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas qu'on dise, bon, c'est bien, une bonne prédication. Pourquoi vous allez à Sainte-Agne? Tiens, pourquoi vous venez à Sainte-Agne? Parce que c'est facile pour se garer? Non, c'est pas ça. Pourquoi vous venez ici? Répondez. Ah, ne répondez pas, mais répondez-vous. Pourquoi vous venez ici? Est-ce que vous voulez améliorer votre communion avec Dieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que nous sommes contents de notre communion avec Dieu? Est-ce que vous pouvez répondre ce matin, mais honnêtement, pas par haute voix, ne vous levez pas et dites « Non, je ne suis pas content ». Mais peut-être que le Seigneur y voit. Il voit quand même comment on répond quand on écoute. « Non, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait de ma communion avec Dieu ». Eh bien, améliorons-la. Plutôt que de bouder comme le don spirituel. Il y a des gens qui passent leur vie à râler, à bouder, et ils font l'œuvre du diable. Ça peut être charnel, ça peut être très psychique, mais souvent ça fait l'œuvre du diable, parce qu'en fin de compte, il décourage tout le monde. Ils ne le font pas exprès. Mais quand vous entendez Dieu qui est obligé de dire à son peuple, mais quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire des sacrifices, vous pouvez offrir des taureaux autant que vous voulez, je ne le regarde pas. Ce n'est pas fait pour nous rabrouer, c'est fait pour nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que j'améliore ma communion. C'est merveilleux la communion fraternelle. Est-ce que c'est beau la communion fraternelle? Bon, la communion fraternelle. Est-ce que dans l'église, vous avez une bonne communion fraternelle avec vos frères? Est-ce que vous avez une bonne communion avec des frères et sœurs dans l'église? Oui. La communion fraternelle, ça dépend de nous. Hein. C'est chacun de nous qui nous développons cette communion. Ne vous plaignez pas si vous n'avez pas de communion. La communion fraternelle, c'est un bienfait. Un grand bienfait. La communion d'un époux et d'une épouse. Tiens donc. Est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est bien. Quelle bénédiction. Oui ou non? La protection dans un foyer, la faveur dans un foyer. C'est certainement une des plus grandes bénédictions, la protection d'un homme sur une femme et vice-versa. Je pourrais multiplier les exemples. Mais il y a des choses que votre frère, que votre femme et que votre mari ne pourront jamais vous donner. Et on a le tort, souvent, d'attendre des autres ce que seul Dieu peut nous donner. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un travers. On cherche auprès des autres. C'est bien, la communion fraternelle. Moi, combien de fois ici, quand j'ai eu des épreuves, j'ai été consolé. Et j'ai apprécié. Moi, vous voyez, si je devais partir ce soir, je me rappellerai ça. Ces frères, ces sœurs, oui, qui sont là au milieu de vous. Ma femme, mes enfants. Ouais, qui m'ont encouragé. C'est beau la communion fraternelle. C'est beau l'affection fraternelle. Il faut le dire. Et moi, franchement, ici, je suis inondé de ça. Merci. Mais je sais qu'il y a des choses, c'est Jésus qui me les donnera. C'est pas valable que pour moi. C'est valable pour toi. Il y a des choses que ta femme ne peut pas te donner. Il y a des choses que ton mari ne peut pas te donner. Mais Dieu peut te les donner. Dieu veut te les donner. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre que ces hommes, même qui ont fait des choses qui paraissent toutes simples, je le répète, comme de détacher un anon et de dire juste à quelqu'un qui l'interrogeait, le Seigneur en a besoin. Ah. C'était quand même formidable. C'était ce que Dieu voulait. Mais il y a des chrétiens, ils ne savent même pas, ils sont tellement gavés de choses du monde. Comment voulez-vous qu'ils soient à côté de Jésus? Et le diable, ça me fait des gorges choses. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas, il y a une frustration, alors que nous avons un Dieu qui veut bénir. Est-ce que Dieu veut sauver des âmes plus que nous? Mais franchement, La question, elle est ridicule, tellement c'est sûr que Dieu est plus intéressé que nous pour le salut des âmes, pour le salut de nos enfants. Dieu aime nos enfants plus que nous les aimons nous-mêmes, croyez-moi. Alors, il faut que l'on comprenne certaines choses, il faut qu'on lise dans sa parole, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Moi, vous rendez compte ce qu'il m'a fallu attraper, moi? Pour que j'arrête de courir, de faire des visites à droite à gauche, de jouer le secrétaire et l'homme orchestre de l'église? Vous rendez compte ce qu'il m'a fallu avoir? Et je bénis Dieu pour ça, ça a été une grâce. Pour que je puisse enfin faire ce que Dieu me demande, de chercher sa face. Au bout de 30 ans de ministère, il y en a gens qui mettent longtemps pour comprendre. J'en ai honte. Je sais que vous m'aimez, ça fait que ça ne pose pas de problème. Dans 2 Chroniques, il y a la solution. Mes frères et sœurs, elle est liée, on l'a lu, on l'a entendu, on l'a réentendu. Mais ce matin, Dieu ne se lassera pas de nous le rappeler. Parce que Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Vous le croyez que Dieu nous aime? Dans 2 Chroniques. Mais il n'y a pas que le temple, comme on l'a vu, bon, on n'a pas vu Esdras, mais dans Néhémie, il y a les murailles. Il faut protéger nos maisons. Il faut qu'il y ait une barrière entre l'Église et le monde. Est-ce que vous comprenez? Les choses du monde, il faut s'en séparer. Les jeux de rôle, moi quand je vois qu'il y a des jeunes à l'Église qui font des jeux de rôle là, sur leur PlayStation, je ne sais pas comment ça s'appelle, où on tue des gens en pagaille. Vous croyez que Dieu est d'accord avec ça? Faites-le si ça vous plaît. Mais je ne pense pas que vous entendrez la voix du Seigneur vous dire « Mon fils, va détacher un anneau. » Vous n'entendrez rien du tout. Dans 2 Chroniques, alors c'est au chapitre 14, on pourrait lire peut-être au chapitre 13 parce qu'il y a une dimension de Chroniques 7. Au chapitre 6, il y a, Dieu rappelle, Dieu est bon, c'est clair avec Dieu. Vous voyez, Dieu dit à Salomon, 2 Chroniques, on parle 6, 24. Il explique pourquoi on peut être battu, en échec. Regardez, 2 Chroniques 6, 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pourquoi? Pourquoi ils sont battus? Pour avoir péché. Vous voyez, c'est ça l'honnêteté. 2 Chroniques 6, 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pourquoi? Pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi, ce n'est pas une question d'aller à un culte une fois par semaine. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, c'est important de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas le diable qui doit être glorifié par un comportement, minable, ouais, par un témoignage qui ne le glorifie pas. Voilà, ça c'est mieux. S'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, mais il prie, il sait. Il sait, Salomon, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé, voyez, le ciel sera fermé, c'est dramatique. Le ciel fermé au-dessus d'une église, mais c'est terrible, etc. Verset 29, si un homme, voyez comme quoi ça peut être individuel ou ça peut être collectif. Si un homme, si tout ton peuple, gloire à Dieu, vous pouvez être cet homme-là, cette femme-là, et nous pouvons être l'église-là. Si tout un peuple d'Israël, ou l'Église, dans le cadre de notre dispensation, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, pas des plaies physiques comme Léa, ça n'a rien à voir, et qu'il étende les mains de cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, mes frères et sœurs, Dieu connaît votre cœur et le mien, toi seul, tu connais le cœur des hommes. Chapitre 7, verset 1er. Lorsque Salomon, qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre cette parole. Lorsque Salomon, il n'est pas dit qu'il a prié, qu'il a achevé de prier. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il a achevé de prier. Ça veut dire qu'il a dû répandre vraiment son cœur devant Dieu. Ce n'était pas une prière. Voilà, je prie. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Hugo? Il faut prier 5 minutes. Ah, je prie 5 minutes. Ah, maintenant, c'est bien, j'ai mon chrono. Bon, je prie 5 minutes. Non, ce n'est pas ça la prière. Il a achevé, il a dit à Dieu tout ce qu'il avait à lui dire. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Donc ça veut dire que l'Église, il faut qu'elle soit nette. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, alors c'est un conditionnel, il faudrait écrire quand maintenant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Regardez bien la suite, mais non, mais c'est quand même touchant quand même. On voit bien ce désir de Dieu, il ne dit pas, mais vous avez été trop loin, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Mes yeux seront ouverts désormais. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai là toujours... Vous vous rendez compte? Mais vous rendez compte, c'est Dieu qui parle. C'est pas une blague. J'aurai là toujours mes yeux et mon cœur. C'est pas merveilleux? Vous avez vu comment il a fini le temple de Jérusalem? J'ai le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup les yeux du Seigneur dans le temple de Jérusalem quelques siècles après. Et pourtant Dieu leur avait dit, j'aurai là, mes yeux ils seront jour et nuit ouverts sur le temple, c'est-à-dire sur vous, sur la maison de Dieu. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui, on le dit différemment dans le Nouveau Testament, mais c'est exactement pareil. Dieu dit non, ça ne va pas, mais si vous revenez... En plus, Dieu nous fait, on joue pas au chat et à la souris. Dieu dit voilà ce qu'il faut. Il faut que vous retrouviez la communion. C'est pour ça que faire des réunions d'évangélisation, faire des jeûnes et prières, faire des missions de ceci, faire du spectacle, ça sert à rien. Ce que Dieu veut, il veut ton cœur. Donne mon fils, donne-moi ton cœur. C'est écrit ça? Voilà. Dieu, il veut ton cœur. Ton ministère, ton argent, tes compétences. Des fois, on voit un jeune, oh, ce jeune, il chante bien, il joue bien de la guitare. Tu crois pas qu'il ferait un bon pasteur? Ah oui, il chante bien, il s'exprime bien. C'est le genre de gars qu'il nous faut dans le ministère. Des gars qui s'expriment bien. On va mettre la barre assez haut, on va prendre des gars qui ont le bac plus 5. Ça vous fait rire? Mais je peux vous dire qu'il y a des dénominations, aujourd'hui, où ils ne prennent dans le ministère... que des gens qui ont bac plus 5. Heureusement que je suis rentré avant. Ça, non, mais ça fait pitié. Mais vous vous rendez compte? C'est vrai ce que je vous dis? Mais voilà, on est dans la technicité, on est dans l'organisation. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ces deux disciples, vous rendez compte, ils ne savaient pas que l'histoire entière de l'humanité entendrait qu'ils ont dû aller détacher un annonce. C'est pas merveilleux? Il faut être fidèle dans ces petites choses. Et les conditions, elles sont là. Verset 14, c'est un verset merveilleux. Mais pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi on ne s'y applique pas? Si mon peuple, par quoi il faut commencer au fait? Par la prière? Parce que ça, c'est le meilleur moyen. Vous avez envie de voir le ciel ouvert au-dessus de votre maison? Ah, vous avez vu, ça peut être collectif. Si une église ne veut pas, eh ben le Seigneur n'agira pas. Vous avez vu dans les lettres aux églises, Dieu parle au pluriel. Souvent il le fait, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Vous devriez faire aussi, ou alors j'ai ça contre vous, vous avez abandonné le premier amour, ou etc., etc. Et puis il dit, à celui qui vaincra. Il aurait pu, voyez, vous voyez. Non. Donc, il parle à tout le monde, puis à un moment donné, il dit stop. À celui qui vaincra. Ça prouve bien que c'est un problème individuel, personnel. Et ce matin, il peut y en avoir qu'un qui dit, mais oui, oui, Seigneur, je te donne mon cœur, pas 3 minutes, là, le temps que je rentre à la maison et puis que je me retrouve devant ma PlayStation en train de jouer à des jeux stupides. Et je suis pour la détente, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me faites, parce qu'on me fait dire des choses, ça m'est égal, mais c'est pas bien quand même. Je suis pour la détente, je suis pour l'équilibre. Mais il y a des choses qui amènent vraiment la bénédiction. Et ce n'est pas l'hypocrisie. Ce qui amène la bénédiction, c'est cette honnêteté devant Dieu. Seigneur, la première chose, c'est quoi? De m'humilier. J'ai souvent prêché sur l'humilité, on a partagé, vous avez certainement lu la Bible. Comment cela se fait-il? Écoutez bien, frère. Comment ça se fait que j'ai du mal à m'humilier, alors que je sais que Dieu fait grâce aux humbles. Oui ou non? Comment ça se fait que j'ai du mal à me courber devant mon Dieu? Comment ça se fait vraiment? On peut poser la question, vous êtes d'accord avec moi? Mais comment ça se fait alors que je sais, et je sais très bien que Dieu ne peut pas me tromper? Comment j'arrive pas à m'incliner devant mon Dieu? Avant peut-être de prier, avant de chercher la face de Dieu. Parce qu'à quoi ça sert de prier? Si je prie, Seigneur, bénis ici, bénis là, bénis Jonathan, bénis Michael, bénis Grâce, bénis David. Moi je prie pour toute l'Église. Mais à quoi ça sert de prier? Si par exemple, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Est-ce que Dieu va me bénir si j'ai de l'amertume? Si j'aime pas ma femme, est-ce qu'il ne va pas y avoir un obstacle à la prière? Vous voyez pourquoi j'aime ma femme? Mais mes frères et sœurs, on rit parce que bon, on peut sourire, on peut faire un peu d'humour, c'est pas interdit. Mais quand même, mes frères et sœurs, on pourrait se poser la question, mais comment cela se fait-il alors que Monsieur Gault, alors que mon pasteur, tiens, j'ai été dans une église trois fois. Par exemple, je vous donne un exemple, ça me vient à l'esprit. Il y a 3 ans de ça, j'ai invité 3 pasteurs dans l'année. Les 3 pasteurs ont prêché sur le même texte. Qui ça dans sa vie? Ils ont prêché tous les 3 sur le psaume 76. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. 3 prédications complètement différentes. Je me demande si est-ce que vous ne croyez pas que Dieu peut nous parler de cette façon? Moi, je crois que Dieu a voulu nous parler. Psaume 73. Mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons que Dieu nous dit, si mon peuple s'humilie, le ciel est fermé, oh, mais ce n'est pas définitif. Le ciel est fermé, bon, il faut que ce ciel s'ouvre. Je veux que le ciel soit ouvert. Jésus a ouvert le ciel. Il a rappelez Isaïe quand il dit, oh, si tu déchirais les cieux. Rappelez, si tu descendais. C'était une belle prière, ça, oui. David, Isaïe, il connaît Dieu. Et il fait cette prière, oh, si tu déchirais les cieux. Et ils sont déchirés, les cieux. Jésus les a déchirés. Là, le sang de Christ nous a ouvert le ciel. Et pourquoi nous le refermons par un comportement qui ne plaît pas à Dieu? Je parlais de ces bribes, parce qu'il faut, je vais l'expliquer peut-être samedi dans la suite de l'occultisme. Parce qu'il faut que tous ces jeunes de l'Église vous entendiez ce qui détruit le muraille. Parce que si Jésus tarde, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Vous voulez qu'ils soient protégés ou largués au monde, les enfants? Et tout ça, c'est sérieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a une telle légèreté. Voilà, les gens sont passés. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas des prédications comme celle-ci. Pourquoi? Parce que ça les remet en question. Mais mes frères et sœurs, je crois que c'est une bénédiction de se remettre en question et de dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Moi, le premier. Qu'est-ce que tu as à me dire? Eh bien oui, mon fils, humilie-toi. Parce que je peux vous dire que celui qui s'humilie, Dieu l'élèvera. Et c'est même pas une question d'être élevé. Franchement, il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin d'être élevé par Dieu. Levez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être élevé? Levez-vous. Jonathan? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être élevé? Ben non. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être à côté du Seigneur, d'être en communion avec le Seigneur. Un ciel fermé, c'est un drame. Une église qui ne voit plus de prières exaucées, c'est un drame. Une église qui fait de l'évangélisation et qui a la place de gagner des âmes en pair, c'est un drame. Oui ou non? Et on ne doit pas rester insensible. Néhémie, quand il a entendu, là, pourtant c'était quelqu'un, il était loin. Il s'est assis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Son frère, justement, s'appelait Akania, ça veut dire affliction. Et les mots dans l'hébreu, vous savez, c'est choisi par Dieu. Aujourd'hui, on donne un prénom par plaisir. Mais dans l'Ancien Testament, c'est clair, même dans le Nouveau, mais c'est un nom qui correspond à quelque chose. Il y avait de l'affliction. Il y avait de l'affliction sur Jérusalem parce que les portes étaient consumées, les murailles étaient consumées. Et je le répète, mes frères et sœurs, si nous ouvrons la porte à toutes des choses que Dieu interdit, parce qu'il y a des choses que Dieu interdit. Peut-être que ça ne vous plaît pas, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses qui sont des interdictions. Et je le disais hier soir, si vous prenez un sens interdit, vous risquez d'avoir un grave accident. Et quand Dieu interdit quelque chose, on devrait dire, « Oh, mais Seigneur, quand même. Quand moi je vois, vous êtes sûr, Monsieur Gault, qu'on ne peut pas vivre en couple, c'est comme si on était marié devant Dieu. C'est exactement pareil, Monsieur Gault, c'est la loi. » Eh bien oui, mais dans chaque pays, il faut se soumettre aux lois. Et si vous avez des relations sexuelles hors mariage, vous êtes dans la fornication. Et si vous êtes marié, vous êtes dans l'adultère. Et vous êtes condamné. À moins que vous ne vous repentiez. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, écoutez, c'est votre affaire. Mais moi, je vous dis que c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est là, mais non, c'est pareil. Écoutez, mes frères et sœurs, il faut, si nous voulons voir le ciel s'ouvrir, que nous protégions nos murailles, que nous reconstruisions nos murailles. Seigneur, je veux te chercher, je veux m'humilier, je vais lire la Bible. La prophétie qui s'adressait à quelqu'un de lire le prophète Malachie, mais lisez le livre de Malachie. Et vous allez voir qu'il y a peut-être 3-4 obstacles que Dieu va vous dire, mais c'est vrai, c'est pour moi. Eh bien, mettez-vous à genoux. Enfin, mettez-vous à genoux spirituellement. C'est pas grave la position physique. Seigneur, je te demande pardon. Oui, j'ai regardé Harry Potter, Seigneur, je sais que c'est pas bien. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu vous pardonnera. Vous le croyez? Vous allez me dire, oui, mais non, mais Monsieur Gou, il est vieux jeu, ça y est. Ça y est, l'AVC, ça l'a abîmé à cet homme. Il devient légaliste, radicaliste, non, n'écoute pas ses conseils. C'est pas les miens, conseils. Si un jour c'est un de mes conseils, rejetez-le, c'est pas grave. Si c'est mes opinions, rejetez-les, c'est pas grave. Mais quand c'est la parole de Dieu, moi je vous conseille de l'accepter. Et avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, David disait, je prends un plaisir à tes commandements. C'était même pas une obéissance obligée, c'était un plaisir. Ah, tu interdis ça, eh bien je ne le regarde pas. Parce que je sais que ça va me faire mal et que ça va brûler, ça va consumer les murailles autour de ma maison spirituelle. Et moi, je veux protéger ma maison. C'est quoi votre bien le plus précieux, au fait? Répondez. Votre bien le plus précieux aujourd'hui, c'est quoi? Votre voiture? Votre maison? C'est quoi votre bien le plus précieux? Répondez, à vous-même. Mais c'est bien parce que Dieu entend ce que vous dites. C'est quoi votre bien le plus précieux? Votre maison à la campagne? Est-ce que c'est bien d'avoir une maison à la campagne? C'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. C'est moi égal, moi. Mais c'est quoi le bien le plus précieux? Est-ce que vous pouvez chanter « Je n'ai que toi »?« Je n'ai que toi dans le ciel ». Même si vous avez des millions, moi, ça ne me gêne pas. On peut être très, 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 très béni matériellement et dire « Mais Seigneur, tout ça, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai que toi. » Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui dit des choses toutes simples. Si mon peuple, si un homme s'humilie, s'il prie. Et on voit que ça ne suffit pas. Prier, ça peut être un monologue. Seigneur, tu vois, justement, oui, j'ai fait des choses pas bien. J'ai regardé ça, c'était pas bien. Je fais ces jeux de rôle, c'est pervers. Seigneur, tu vois, ces films de violence que je regarde, tout ça, ça me souille, ça esquinte la muraille autour de la maison. Seigneur, pardon. Mais ça ne suffit pas. Il faut s'humilier. Comme ça, on a le cœur humble. Quand on a le cœur humble, si le Seigneur te dit, ça va pas. Eh bien, tu dis, oui, ça va pas, Seigneur. C'est ça, l'humilité. Après, je prie, je déverse mon cœur, mais on voit bien que ça suffit pas. Dieu dit, en plus de la prière, s'il cherche ma face, ça veut dire, il y a un pas de plus. Ça veut dire quoi? Je l'ai perdu, ta face. S'il faut chercher la face de quelqu'un, c'est que je l'ai perdu. Vous êtes d'accord? Je l'ai perdu. C'est comme quand Dieu, je réfléchissais sur Dieu quand il dit à Isaïe, à Jérémie, pourtant moi Jérémie c'est quelqu'un, quand Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te dis, mais attends, c'est à qui t'as dit ça? À Jérémie. Et Jérémie s'était détourné de toi? Eh bien certainement un peu, vous voyez? Chercher la face de Dieu, Seigneur, je veux prier. Il y a des gens, ils prient, ils ne savent pas s'ils prient, ils ne savent pas si quelqu'un me disait hier, moi je crois que mes prières elles s'arrêtent au plafond. Mais ce serait peut-être temps de dire, Seigneur, mais je veux chercher ta face. Tu vas me montrer, Seigneur, ta face. Vous savez, frères et sœurs, moi je suis qu'un chrétien. Je suis qu'un chrétien. C'est vrai. Et j'ai bien des choses à apprendre. Mais sincèrement, il n'y a pas besoin d'être un théologien élevé pour comprendre quand même que si on cherchait la face de Dieu, je pense que dans nos maisons, dans nos vies, il y a bien des choses qui brilleraient. Si on cherchait la face de Dieu, je pense que beaucoup de chrétiens seraient délivrés de leurs craintes. Vous me suivez? Que certains chrétiens seraient délivrés de leur peur du lendemain, que certains chrétiens seraient délivrés de leur toute leur dépendance. Parce que quand même, on voit bien qu'il y a une dimension de bénédiction. S'ils cherchent ma face, là, c'est plus que nous décharger de nos fardeaux dans la prière. Seigneur, je veux être avec toi. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Seigneur, ma communion, je ne suis pas comme ces deux disciples où tu peux de suite me dire, va détacher la langue. J'aimerais que tu me dises quelque chose. Il vous le dira. Parce que quand on cherche la face, ça devient plus facile de comprendre la quatrième condition. S'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Il y a des gens qui prient et ils ne se détournent jamais de leurs mauvaises voies. Pourquoi ? Moi, vous savez, j'ai prié, moi, ça m'a travaillé tout ça. C'est pour ça que j'en parle. Prier, c'est bien. S'humilier, c'est bien. C'est encore mieux. Mais les trois dimensions doivent nous amener. Je me détourne de mes mauvaises voies. C'est évident. Je ne suis pas le mari que je devrais être. Je vais devenir le mari qu'il faut que je sois. Parce que la Bible dit que si un homme n'aime pas sa femme, eh bien, ses prières ne seront pas exaucées. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Où c'est que c'est écrit ? Les femmes, vous êtes tous d'accord ? Vous voulez que votre mari vous aime ? Vous ne répondez pas ? En principe, ça parle, les femmes. Et les frères ? Vous voulez que vos épouses vous aiment ? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous savez, le diable, lui, pour détruire, pour fermer le ciel, il a qu'à abîmer les couples de l'Église. Ça suffit. Et je crois qu'on devrait quand même veiller l'un sur l'autre. Et dire à sa femme, qu'est-ce que tu as à me dire en ce moment ? Moi, je l'ai fait souvent. La première fois, je pensais que ça allait être bien, vous voyez. Chérie, en plus, j'ai pris une voix tendre, vous voyez. Chérie, qu'est-ce que tu as à me dire ? Est-ce que tu as des reproches à me faire ? Oui, t'es prêt ? Et les enfants derrière ont suivi avec une clarté pas possible. Esther, John, Lucas. Maëva était petite dans sa lit. J'ai pleuré. Mais d'abord, je leur ai dit merci. Vous savez ce qu'ils me disaient ? Et c'était en plus mon emploi du temps de l'église. Je le faisais pour Dieu. Papa, t'es toujours irrité. T'as pas remarqué ? Mais non. Vous savez, quand on est toujours pressé de faire les choses, toujours à droite, pourtant je me levais pour l'église, moi je me suis consacré à l'église, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'on se consacre à l'église qu'on est en communion avec Dieu, moi je vous le dis. C'est pour ça que moi je tiens à ce qu'on fasse un jeûne et prière, mais un jeûne et prière dans une obéissance joyeuse. Vous êtes d'accord avec moi ? Seigneur, est-ce que vous pouvez dire, parce que c'est un autre cas quand même, est-ce que vous pouvez dire à votre épouse, qu'est-ce que tu as à me dire ? Est-ce que vous pouvez dire à votre mari, chérie, est-ce que tu as un reproche à me faire ? Pas sur le repassage, le pli, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Est-ce qu'on peut le faire dans un foyer, ça ? Jérémy ?
Ah, je
ne
peux pas.
Ah bon ? Ça va venir. Est-ce qu'on peut le... Non mais, sérieusement, c'est une bénédiction, non ? Il y a des couples qui se battent pas physiquement, j'espère. Mes yeux seront ouverts sur l'Église. C'est ça que nous dit le Seigneur. Vous n'avez pas envie qu'un jour, les yeux du Seigneur soient continuellement sur vous ? Alors, je crois que Dieu nous a protégés. Vous croyez que Dieu nous a protégés ? Moi, hier soir, je montais les escaliers pour aller au lit. Et je disais, merci Seigneur pour les anges qui me protègent. Vous savez que les anges vous protègent ? Vous pensez à remercier le Seigneur pour les anges ? Faites-le. Parce qu'il y a des anges qui vous protègent depuis toujours. Personne ne serait là. Dieu est bon, mais mes frères et sœurs, il veut ouvrir le ciel. Vous entendez ? Le Seigneur, il veut ouvrir le ciel. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, eh bien je vais m'humilier. Je vais relire les évangiles. Et quand tu vas me montrer quelque chose, Seigneur, je vais le faire. Je vais prier le temps qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Je vais chercher ta face. Je vais te chercher. Je veux que le ciel s'ouvre. Je veux que mes prières soient exaucées. Mais je pense que si tous les chrétiens, sérieusement, joyeusement, simplement. Nous nous mettions à dire, 2 Chroniques 7, 14, je vais en faire mon cheval de bataille et je vais le vivre. Je vais m'humilier. Et peut-être que Dieu va... Attention, parce que Dieu va utiliser quelqu'un pour vous humilier. L'humilité, elle ne va pas venir par la poste en colis. L'humilité, elle vient par des gens. Accrochez-vous. Dieu peut vous humilier par quelqu'un. Est-ce que vous l'acceptez, ça? Vous acceptez d'être humilié? Seigneur, je veux m'humilier. Il m'est bon d'être humilié, disait David. Alors, Seigneur, on va s'atteler au premier point. En même temps, on va prier. En même temps, on va jeûner. En même temps, on va chercher vraiment sa face. Se détourner de ses mauvaises voies. Moi, autour de ma maison spirituelle, il y aura des murailles en bon état. Il y en a qui pensent ça, qui vont le dire. Autour de ma maison, il y aura des murailles. Je serai protégé de l'ennemi. Alors, on va fermer les yeux, tout simplement. J'aimerais vraiment que ceux qui ont été peut-être interpellés dans le silence répondent à la prédication. À côté, dans la salle à côté, soyons, je ne sais pas s'il y a du bruit, je sais que des fois on se plaint qu'il y a du bruit, recueillez-vous également. Même s'il y a des enfants qui, je sais, sont peut-être un peu bruyants, recueillons-nous tous ensemble. Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir des frères pour la Sainte-Seine. Mes frères et sœurs, ma sœur, mon frère, réponds à la prédication. Réponds, s'il te plaît. Que personne ne t'entende, sauf Dieu. Mais que puisses-tu lui parler? Vous savez, on n'a pas lu les conséquences, mais quand même, j'aurais pu prendre une minute pour m'y arrêter. Si mon peuple fait ces choses, je le pardonnerai. Je le guérirai. Je l'exaucerai. On aurait pu prendre un peu de temps. J'ai été incorrect dans cette prédication, car il y a des conséquences extraordinaires. Vous voulez être exaucé? Que votre foyer soit béni? Vous voulez être guéri physiquement, psychiquement, spirituellement? Eh oui, si mon peuple fait ça, je l'exaucerai. Alléluia! Alors Dieu cherche un disciple qui va peut-être commencer ou recommencer à redétacher un petit talon et à juste dire « Jésus en a besoin ». Mon frère, peut-être que ce soir vous allez téléphoner à un frère. Plutôt que de regarder la télé, peut-être que vous allez prier. Tiens, vous allez avoir à cœur, monsieur Untel. Je t'appelle, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça fait un mois que tu n'es pas venu à l'église. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ça va bien. Et ce frère, il va être rassuré. C'est ça, détaché d'un nom. Prions le Seigneur quelques instants. Prions-le. Prions-le. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous voyons que même si ça n'a pas été, si ça va mal, si on a tout détruit autour, si nos ruines sont là tout autour de la maison, tu l'as dit que tu aurais pitié de nos ruines. Seigneur, nous sommes bouleversés, vraiment bouleversés. Que tu ne nous juges pas, que tu ne nous accables pas, et que tu nous donnes toujours la solution pour nous guérir. Nous restaurer, pour que les cieux soient tout à nouveau ouverts. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons sur cette assemblée, dans nos familles, dans nos maisons. Nous voulons construire des murailles pour protéger nos enfants. Oui, Jésus, nous écouterons tous tes conseils, toutes tes interdictions, nous les fuirons. Parce que nous voulons t'obéir. Que ton nom soit béni, Seigneur.